L'amitié, c'est quelque chose de tellement important. J'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre de personnes vers leur fin de vie. Et sur leur lit de mort, ces gens-là ne sont pas en train de vous dire « amenez-moi mes diplômes, amenez-moi mes médailles, mes titres, etc. » Mais ceux qui le souhaitent, c'est être proche de leurs amis et de leur famille. Ces relations qu'ils ont nourries pendant toute une vie, c'est ça qui les a impactés et c'est ça qu'ils recherchent tout à fait à la fin de leur vie. Le professeur de philo, Paul Gould, qui est professeur dans un séminaire théologique baptiste, a dit ceci, « La mort de l'amitié authentique est l'une des marques de l'âge numérique. Les relations sont devenues superficielles. La conséquence n'est autre qu'une épidémie de solitude. » C'est fort. Et pourtant, l'amitié, c'est une aspiration profonde, universelle. L'amitié est plus précieuse qu'un trésor, parce que nous sommes tout simplement des êtres relationnels, conçus pour avoir une vie sociale. Et on l'a vu notamment pendant la période du confinement. Et on a souvent entendu parler du lien social. C'est parce que tout simplement on est créé pour cela. L'amitié peut être une source de bien-être et d'épanouissement. Alors la question ce matin c'est, qu'est-ce que c'est qu'un ami? Comment reconnaître un véritable ami? Et comment bâtir une amitié saine, solide et durable? C'est de ce donc dont on va parler en nous appuyant sur quelques passages du livre des Proverbes. Evelyne et moi, on aime beaucoup le livre des Proverbes et on a exercé dans la famille, j'en parlais hier matin avec les collègues de l'Entente, un leadership familial en nous appuyant justement sur les passages des Proverbes qui ont énormément à nous apprendre. Le livre des Proverbes est plein de sagesse. Il est écrit pour la plus grande partie par le roi Salomon, on est au 10e siècle avant Jésus-Christ, et il se sert de comparaisons, d'images, de métaphores, pour nous parler de la vie et des relations les uns avec les autres. Et il nous enseigne à vivre d'une manière sage et à être en capacité de faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Alors un premier ingrédient de cette véritable amitié, une première qualité, c'est l'amour. Proverbes chapitre 17 au verset 17. L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur, il se montre un frère. Une autre traduction dit un frère est né pour le jour du malheur. Proverbes 18 verset 24. Celui qui a beaucoup de compagnons ou beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il y a des amis plus attachés que des frères. C'est vrai que de vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Ils sont rares, mais ils sont précieux. Alors à la base de l'amitié, il y a l'amour. Ami vient du verbe aimer. Cet amour a la forme d'un attachement réciproque entre deux personnes. Et les vrais amis sont souvent des amis de longue date. On se voit peut-être pas trop souvent, mais avec Evelyne, on a quelques amis, des amitiés qu'on a tissées tout au long de notre vie, qui sont précieuses. Ce sont des liens forts, unis par des histoires, des aventures, des anecdotes, des malheurs ou des joies. Avec Evelyne, lorsqu'on était un petit peu plus jeune, on a eu l'occasion de faire un voyage missionnaire qui a duré presque une demi-année, en Afrique, avec une équipe d'une vingtaine de jeunes. Et on a vécu ce qu'ont vécu d'autres qui étaient, par exemple, sur le front, c'est cet attachement, cette proximité. Quand vous avez traversé le désert pendant 3 semaines sans vous laver, au début, c'est l'aventure. C'est formidable. Mais quand ça sent la transpiration, quand on commence à voir l'éthique des uns et des autres, quand on voit les défauts de celui-ci, de celui-là, c'est un réel défi que de rester unis ensemble. Et donc on était en mission, et au retour, on a été vraiment proches et liés, et jusqu'à ce jour, c'était il y a presque 50 ans maintenant, et jusqu'à ce jour, ces amitiés sont restées solides. Et quand on parle de l'Afrique, quand on parle du désert, mes amis, c'est sérieux, c'est du solide, c'est du vécu. Un ami, c'est un attachement. Plus attaché que des frères. Le mot hébreu ici, c'est le mot collé. C'est un lien très fort. Des amis, ils cheminent côte à côte. L'amitié apporte parfois une dimension à notre vie que la famille ne peut pas nous donner. Une dimension complémentaire. Et bien sûr, tout dépend du lien qu'on peut avoir dans les familles. Mais un ami, c'est quelqu'un qui apporte une dimension complémentaire. Le lien qui nous unit dans la famille chrétienne est très, très fort. C'est Christ qui nous unit les uns aux autres. Et c'est son esprit qui nous unit. L'amitié fraternelle, ce qu'on appelait la koinonia. Le mot koinonia, partager, donner, recevoir, échanger, apporter, porter. C'est très très fort comme vocabulaire. Et vous ne trouverez pas un ami en cherchant un ami, mais le meilleur moyen d'avoir un ami, c'est d'en devenir un soi-même. Alors je parle au masculin, mais j'englobe bien sûr aussi les femmes, les filles. Le meilleur moyen d'être un ami ou d'être une amie, c'est d'en être une. Un ami, c'est quelqu'un qu'on découvre au travers d'une passion commune, au travers d'un intérêt commun, d'un projet commun, ou peut-être même d'un problème commun. L'écrivain C.S. Lewis, un écrivain chrétien, qui est bien connu dans le monde évangélique, décrit la naissance d'une amitié par cette expression « Quoi ? Toi aussi ? Je pensais que j'étais le seul. » Donc une amitié commence par une découverte. Et à partir de ce moment-là, l'ami se révèle comme un compagnon de route, un compagnon de voyage, quelqu'un qui marche avec moi dans la même direction. Nous partageons un même projet, une même vision, un même sentiment. Parfois, j'ai entendu des gens dire « Moi, je suis celui que je choisis d'être. » Est-ce que c'est vrai ? Pas tout à fait. Parce qu'au début de ta vie, tu es celui que ta famille fait de toi. Et puis, par la suite, tu deviens ce que les amis font de toi. C'est ton entourage, c'est ton environnement qui te façonne. Ce qui m'amène à dire « Dis-moi qui tu fréquentes ?» Et je te dirai qui tu es. Les influenceurs, on en parle beaucoup, mais on est tous influençables, on est tous influencés. La question est de savoir, est-ce que je suis bien influencé? Est-ce que je suis bien entouré? Et ici, à l'Église, on veille à être bien entouré. Et on espère qu'on ait de bons influenceurs pour bien vous accompagner et bien vous entourer. L'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens 15, au verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et on donne ce conseil aux enfants et à tous, « Choisissez bien vos amis. » On ne peut pas choisir sa famille. C'est impossible. Par contre, peut bien choisir ses amis. Les amoureux, eux, ils sont face à face, mais les amis sont côte à côte et cheminent ensemble. Donc la véritable amitié, elle se découvre et ensuite elle se construit sur la base d'un amour partagé. Amour. Deuxièmement, la confiance. Proverbe chapitre 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Dans ce passage, il y a une dimension de transparence. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui vous laisse entrer dans sa vie. Il n'a rien à cacher. Il est comme un livre ouvert. Il partage son cœur et il sait se montrer vulnérable. Un ami, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Vous pouvez parler de tout et aucun sujet n'est tabou. Il n'hésitera pas à vous parler de ses problèmes parce qu'il sait que vous êtes en capacité de l'écouter, de recevoir ce qu'il a à dire, de l'aider et que vous savez aussi rester discret. La notion de confidentialité dans la confiance est importante. La confiance, finalement, libère la confidence. Je connais tes points forts et tu connais les miens. Je connais tes fragilités, je connais tes angles morts et tu connais les miens. Tu connais mes mon histoire et moi je connais la tienne. Et quand il y a confiance, il n'y a plus de méfiance, il n'y a pas de jugement, mais il y a une grande liberté. Et c'est important, la notion de liberté dans l'amitié. Cette confiance entre deux ou plusieurs amis gagne en intensité quand elle est alimentée par l'honnêteté, par la sincérité, par la loyauté, par la fidélité. Et ce genre d'amitié résiste à la distance et au temps qui passe. Et quand vous reprenez le fil de la conversation, des semaines, des mois, voire des années plus tard, c'est comme si cette conversation n'avait jamais été interrompue. Voyez ? Et dans une relation d'amitié, on vit aussi ce qu'on peut appeler une connexion émotionnelle. Voyez, une connexion émotionnelle. Je suis impliqué émotionnellement. C'est-à-dire que je peux pas te laisser comme ça. Ce qui te touche, me touche. Ce que tu portes, eh bien, je le porte. Ce qui te fait souffrir, eh bien, me fait aussi souffrir. Je ne peux pas être heureux quand toi, tu es malheureux. Une connexion émotionnelle. Je peux pas me réjouir si tu es découragé. Parce que ce qui te touche, me touche. Un ami, il ne se sert pas de moi, mais il porte avec moi. Et plus que cela, il va m'aider à trouver une solution. Il répond toujours présent quand j'ai besoin de lui, et cela ne le dérange pas. Donc une notion d'amour, la qualité de la confiance, et puis ensuite il y a, troisièmement, de la sincérité. Proverbe 27 au verset 5, « Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Mon expérience m'a montré qu'une amitié était toujours mise à l'épreuve. Toujours. Testée. À un moment ou à un autre, les vrais amis, ils sont sincères et ils sont francs. Et ils n'hésitent pas à vous donner des conseils et à vous mettre en garde. On se parle cash. Et on aime ça dans l'équipe pastorale et dans nos équipes. On aime être vrai parce que c'est un gage, un travail sérieux. Et il n'y a pas de meilleurs amis que ces groupes qui se retrouvent et qui travaillent ensemble et qui servent ensemble et qui finissent ensemble dans un intérêt commun, dans un projet commun. Ça nous fortifie, ça nous encourage, ça développe vraiment des amitiés solides. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alors ça aussi c'est une métaphore, c'est une image pour des choses difficiles à dire et à entendre. Et entre amis, comme disent les Canadiens, on se dit les vraies affaires. On se dit les vraies affaires. On se dit la vérité. Parce que si tu caches la vérité, et si tu as peur d'exprimer ce que l'autre a besoin d'entendre, alors votre relation n'est pas vraiment une véritable amitié. Mieux vaut un reproche ouvert qu'une amitié cachée. Parce que ce n'est pas aimer que de cacher la vérité. Et quelqu'un pourrait dire, bien moi j'aime trop cette personne, je veux pas lui faire de peine, je veux pas lui faire de mal. On peut parfois faire beaucoup de mal en ne voulant pas faire de peine, quoi. Le fait de dire j'aime trop cette personne, c'est une excuse. En réalité, ce que tu es en train de dire, c'est je m'aime trop pour me mettre en danger parce que je suis pas prêt à aller au clash, à vivre un conflit. Je ne suis pas prêt à me mettre dans l'inconfort, dans la gêne, et je ne veux pas être en désaccord. Mais en fait, deux amis se ressemblent, mais ils sont quand même différents. Et quand on est différent, on n'est pas toujours d'accord. Il y a des désaccords, il y a parfois des conflits. Mais c'est bien cela aussi, parce que ça nous apprend à mettre notre amitié au-dessus des désaccords. Et ça teste, ça met l'amitié à l'épreuve. Proverbe 29, verset 5, « L'homme qui flatte son prochain ou son ami pose un piège sous ses pas. » Donc, si tu ne dis pas la vérité à ton ami, ce qui ne va pas, tu lui tends un piège. Tôt ou tard, la relation se gâtera Et si on ne travaille pas sur ces points de fragilité, l'amitié va se rompre. Toute relation passe par des moments de crise, des remises en question, et c'est à ce moment-là qu'il s'agit d'être courageux. Et en réalité, au lieu d'aller au clash, au conflit, une véritable amitié va se renforcer, va se trouver beaucoup plus forte, beaucoup plus nourrie et plus solide. Qui expose, s'expose. C'est-à-dire que si je parle, eh bien je me mets en danger et ça fait partie de la véritable amitié. Proverbe 27, verset 17. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Quand le fer se frotte au fer, ça crée des étincelles. Et entre amis, il y a parfois des étincelles pour alimenter le feu. Mais on en sort grandi, on en sort aiguisé, on en sort affûté. Il peut y avoir différents niveaux d'amitié. Les voisins peuvent devenir de véritables amis. On en a plusieurs, Evelyne et moi. Et récemment, une de nos voisines a eu un accident de voiture. Il y a quelques années, elle a souffert d'un cancer. Elle a eu pas mal de difficultés. Et elle s'en est remise. Et voilà qu'elle, quelques mois en arrière, elle a passé par un moment difficile à la suite de cet accident de voiture. Et son mari, notre voisin, en plus de s'être fâché, lui a fait énormément de reproches. Et notre amitié a été mise à l'épreuve. Je suis allé voir mon voisin, mon ami. Ce sont des amis, les voisins, parce qu'ils me voient vivre tous les jours. Et je ne peux pas tricher. Et je lui ai dit, voisin, si tu continues à traiter ta femme comme ça, son cancer va se remettre en route. Alors, je ne suis pas médecin, je parle sous le couvert de médecin, il y en a quelques-uns dans la salle, mais je sais que sous le coup de choc et de certains traumatismes, il y a des choses qui peuvent revenir et remonter à la surface et se développer. J'ai dit, mon ami, les larmes dans les yeux, il l'a bien vu, que j'étais sérieux, je dis, tu ne devrais pas traiter ta femme comme ça. Il a pris en compte, ça donne un coup dans l'estomac, hein. Et il a changé. Et lorsque j'ai parlé à son épouse, elle me dit, Michel, il a changé. Alors quand une femme dit de son mari qu'il a changé, vous pouvez la croire. Vous pouvez la croire. L'amitié est testée. Et en tant que chrétien, je crois qu'il faut faire ce qui est juste. On ne fait pas toujours ce qui nous plaît, ou ce qui est favorable ou pas, mais on fait ce qui est juste. Et dans la vie, ça peut être une base aussi, c'est pour cela qu'on aime beaucoup les proverbes, Evelyne et moi, ça peut être une base de réflexion. Est-ce que je fais, est-ce qu'aujourd'hui je fais ce qui est juste? Et à la fin de la journée, il s'agit de l'intégrité, hein. On est vraiment dans l'intégrité là. À la fin de la journée, quel bonheur de pouvoir se coucher en disant ah, « Seigneur, aujourd'hui, je ne suis pas toujours fier de moi, mais je suis fier de cette journée. Je ne suis pas toujours fier de moi, mais je suis fier de cette journée parce que j'ai fait ce qui est juste. Je ne suis pas parfait, mais j'étais au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et j'ai fait ce qui est juste. » Donc, l'amour, la confiance, la sincérité. Certains souhaitent la paix, mais ce n'est pas la paix qui libère, c'est la vérité qui libère. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'amour, la confiance, la sincérité. Et puis un quatrième ingrédient, une quatrième qualité, c'est l'équilibre. Proverbe 27, verset 10, « Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. » Proverbe 25, 17, « Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te prenne en haine. » Les plus belles amitiés, aussi sincères soient-elles, peuvent parfois se transformer en amitié toxique. Oui, parce que nous sommes tous faits de la même pâte, nous sommes tous des êtres humains, et nous sommes tous sujets aux fragilités, aux imperfections, nous avons nos limites, nos faiblesses. Et une amitié saine est faite de réciprocité, d'entente mutuelle. C'est une communion dans laquelle nous choisissons de donner, de recevoir, de partager gratuitement, en toute liberté. Une amitié en sens unique ne durera pas. Ce n'est pas vivable, c'est un déséquilibre. Les vrais amis respectent aussi leur liberté respective, leur espace et leur relation. Donc il s'agit d'être mesuré, d'être équilibré. Ne va pas trop souvent chez ton ami de peur qu'il ne se lasse de toi. Entretenir une relation d'amitié, c'est vraiment une bénédiction. Et si elle devient pesante, je crois qu'il faut vraiment y remédier. Alors pour maintenir l'équilibre dans une relation d'amitié, il est nécessaire de ne pas trop idéaliser les relations humaines. C'est Dietrich Bonhoeffer qui a écrit beaucoup de choses sur la dimension de la communion fraternelle en essayant de dire, écoutez, n'idéalisez pas trop l'Église, n'idéalisez pas trop les groupes humains, la relation fraternelle, et plus vite vous serez déçus, et mieux ça fonctionnera. Et je crois qu'il a raison. Il a raison. Dans cette vie, les meilleurs amis peuvent nous décevoir un jour ou l'autre, parce que nous sommes tous faillibles, imparfaits et limités. Donc un ami, c'est quelqu'un qui me ressemble, mais c'est quelqu'un qui est aussi différent, et je dois lui laisser le droit à cette différence. Et ce qui peut parfois fausser les relations, ce sont des attentes exagérées d'un côté ou de l'autre. Les attentes irréalistes, exagérées. Et lorsque l'autre ne répond pas aux exigences, ça crée des frustrations, ça crée des déceptions. Mais si l'amitié participe au bien-être et à notre épanouissement, elle ne suffit pas pour combler notre vie intérieure profonde. C'est beau d'avoir des amis, c'est magnifique. C'est une source de bien-être et d'épanouissement, je l'ai dit. Mais ce n'est pas suffisant pour remplir vraiment notre vie intérieure. Cela ne suffit pas. Dieu nous a conçus pour vivre une relation d'amitié avec lui et ensuite les uns avec les autres. L'ami par excellence, il est tel ami plus attaché qu'un frère. L'ami par excellence est le plus proche qu'un frère, c'est Jésus-Christ. On a une belle chanson qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». La traduction française est un petit peu édulcorée, traduction originale en anglais beaucoup plus forte. « Jésus est l'ami qui aime en tout temps. Il nous aime d'un amour éternel. Il nous aime d'un amour sans limite. Il nous aime d'un amour inconditionnel. » Quand deux amis s'aiment, on parle de philéo. L'amour filial, l'amour fraternel. Mais quand on parle de l'amour entre Jésus et nous, on parle de l'amour agapé, cet amour sacrificiel, cet amour inconditionnel. Comme l'a dit tout à l'heure Matthieu, il ne nous aime pas à cause de ce qu'on a fait, ou Anita dans sa parole prophétique, il ne nous aime pas à cause de nos mérites ou de nos efforts, il nous aime tout simplement à cause de son amour pour nous, sa grâce. Ces blessures sont des blessures d'amour. Et au lieu de nous les infliger à nous, il a pris les coups sur lui, à la croix. À la croix, Jésus a pris sur lui le péché du monde entier. Il a perdu son amitié avec son Père pour que nous puissions entrer dans une relation d'amitié avec Dieu. Pour que je puisse entrer dans une relation avec le Seigneur. Jésus est l'ami qui ne nous laissera jamais tomber. Personne ne peut m'arracher de sa main. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Il est mon sauveur, il m'a pardonné, il m'a accueilli, il m'a libéré de la crainte. Ma plus grande crainte dans ma propre vie, c'était la crainte d'être rejeté. Et c'est lié à mon parcours, c'est lié à mon histoire. Parce que quand j'étais petit, mon père m'a rejeté. J'ai jamais connu mon père. Donc quelque part s'est installée en moi cette crainte, cette peur d'être rejeté. C'est ma plus grande crainte. Eh bien Jésus m'a guéri et délivré de la crainte d'être rejeté. Ça c'est fort. Il n'y a que lui qui ait pu faire cela. Il a fait de moi son ami pour que je puisse devenir l'ami que je suis censé être pour d'autres. Et Jésus dira lui-même dans Jean 15, dans le Nouveau Testament, Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Il a été un exemple. Avoir des amis, c'est un cadeau. Et connaître Jésus comme son meilleur ami, ça c'est la vie. C'est la vie avec un grand V, la vie éternelle. La vie éternelle, dira Jean, c'est de connaître lui, le seul vrai Dieu. C'est une qualité de relation, une qualité supérieure. Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Je vais inviter l'équipe à revenir sur les stades pour un dernier chant. En vous invitant à devenir l'ami de Jésus. Vivez avec lui, vivez pour lui, et vous aurez tous les amis dont vous aurez besoin. On va prier ensemble. Merci, Eric. Je te remercie, Seigneur, pour l'amitié. Je te remercie pour l'Église de Jésus-Christ. Je te remercie pour la réalité de cette amitié qui peut être vécue ensemble, dans les groupes, dans tout ce qui est prévu, organisé. Mais au-delà de l'organisation, il y a ce courant qui passe entre nous, cet esprit qui passe entre nous, ce lien fort en Jésus-Christ. Merci parce que tu veux renforcer notre amour, tu veux renforcer notre confiance, notre sincérité et nous donner l'équilibre dont nous avons besoin. Merci pour ces différents aspects de l'amitié. Tu es pour nous l'ami fidèle qui jamais ne nous laisse tomber. Ma prière pour quelqu'un parmi nous aujourd'hui, c'est qu'il puisse, qu'elle puisse te connaître comme son ami. Tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, mais tu es aussi un ami. Merci pour cette dimension d'amitié, cette dimension de relation personnelle avec toi. Si l'un ou l'autre parmi nous ne te connaissait pas, alors Seigneur, que ce temps que nous vivons ensemble puisse servir à cela. Tu cherches notre amitié, tu cherches nos cœurs, eh bien, que les uns et les autres nous laissions trouver par toi. Merci, parce que tu ne nous brusques pas, tu ne forces rien. Tu dis, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Eh bien, que les uns et les autres nous puissions entendre cette voix. Merci. Merci, Seigneur, pour ton amitié. Amen.